Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Clutch Time pour parler ensemble de l'actu NBA. Après un bon mois, la NBA a repris. On va faire le point aujourd'hui sur cette petite quinzaine de matchs, cette grosse quinzaine de matchs même. Qu'est-ce qui nous a marqué, les joueurs, les équipes? Et aujourd'hui au programme, le grand débat sur les Brooklyn Nets. Avec moi aujourd'hui Nathan, bonjour Nathan.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Salut Thomas.
Salut Paul, salut tout le monde.
Et puis on accueille aussi Mathieu, c'est ta première dans Clutch Time.
C'est la première, salut
Mathieu.
À tous.
Salut Mathieu.
Alors au sommaire pour ce troisième épisode, un grand débat sur la situation à Brooklyn avec l'arrivée de James Harden. Qu'attendre de l'équipe de Steve Nash, le titre ou rien? Thomas, face à moi-même, ça sera ce qui va nous animer tout au long de cette émission. On va chacun défendre notre position bien arrêtée. Ensuite, on aura la petite chronique N1 avec Mathieu qui rendra hommage à Kobe Bryant un an après son décès. Exact. Et pour terminer, on finira l'émission avec le traditionnel baromètre durant lequel Nathan fera un focus sur le Jazz et le Heat. Deux équipes aux trajectoires bien différentes. Clutch Time, saison 1, épisode 3, c'est parti. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Allez, avant de commencer avec l'actu, juste une petite info pour vous annoncer une petite surprise sur la page Insta de Clutch Time, n'est-ce pas Nathan?
Oui, tout à fait, on prépare ça sur la page Insta de Clutch Time, c'est des petits portraits de tous les chroniqueurs, tous les intervenants de l'équipe qui sont sur les podcasts, donc on va essayer de sortir ça la semaine prochaine assez régulièrement, probablement tous les vendredis à partir de la semaine prochaine.
Donc on suivra bien sûr ça sur le compte Insta de Clutch Time. On démarre tout de suite avec les news. Donc la NBA a annoncé que les votes pour l'All-Star Game allaient débuter ce jeudi 28 janvier. On va donc faire un petit tour de table pour savoir quels seront vos titulaires, les 5 dans chaque conférence. Quels seront vos choix? Allez, on commence avec Mathieu.
Ouais, alors moi, il y a deux joueurs qui ressortent un peu. Alors, je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes joueurs. Et moi, il y a Rudy Gobert à l'Ouest parce que je souhaitais mettre en avant le bon début de saison du Jazz. Alors certains ont choisi d'autres joueurs du Jazz, mais voilà. Moi, Rudy, puis en plus, il est français, donc voilà, ça me parlait. Et puis à l'Est, Gordon Hayward, parce qu'on doutait un peu de ce choix de la part des Hornets. Et moi, voilà, je trouve qu'il fait un super début de saison, j'avais envie de mettre ça en avant. Et pour le reste, du coup, à l'Ouest, j'ai LeBron James, Doncic, Curry et Kawhi Leonard. Et à l'Est, Embiid, Durant, Bill et Trae Young.
D'accord. Thomas, toi, quels sont tes choix? Est-ce que tu as des petites surprises aussi?
À l'Est, ouais. Donc, j'ai commencé par l'Ouest. Hein. Donc, Mathieu parlait de Rudy Gobert. Moi, j'ai choisi Donovan Mitchell. Parce que c'était évident que Utah devait être représenté. Avec Luka Doncic avec lui, et Jokic, Kawhi et LeBron. À l'Est, j'ai Colin Sexton, Jimmy, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis et Joel Embiid.
Nathan, de ton côté, allez, qu'est-ce que tu as?
Comme Thomas, j'ai mis Colin Sexton aussi pour récompenser son très bon début de saison et le bon début de saison des Cavs. Bradley Beal à côté de lui, bon, malgré le début de saison des Wizards, un peu moins bon. À l'Est, toujours Embiid, forcément, calibre MVP, Durant, Giannis. À l'Ouest, Doncic, Lillard, puis LeBron, Jokic et Paul George.
Et moi, de mon côté, pour finir, j'ai mis Jaylen Brown. Vous l'avez pas mis de joueur des Celtics dans votre top 5. Moi, j'ai mis Jaylen Brown pour le bon début de saison de Boston. Avec à côté de lui, Malcolm Brogdon aussi pour récompenser Indiana. Et puis, le front court, Embiid, Giannis et Durant. Là, on reste sur les superstars. Et à l'Ouest, comme Mathieu, j'ai mis Rudy Gobert avec LeBron James et Paul George. Et sur mon back court, Steph Curry et puis Luka Doncic. Et pour rappel, les fans représenteront 50% des votes, 25% les médias, 25% les joueurs, et il y aura la réponse le 18 février pour connaître les joueurs choisis. Ensuite, petite info, la NBA a sorti sa première liste dans la course rookie de l'année. En première position, on a James Wiseman, en numéro 2, on a LaMelo Ball, en troisième, on a Tyrese Haliburton. Alors vos avis, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce top 3, on va dire, des rookies? Peut-être Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aurais mis quelqu'un d'autre?
Non, parce que moi j'avais pronostiqué au Bitopin, mais malheureusement il a disparu. Non, mais Tyrese Haliburton, c'est une très bonne surprise. Pour une fois, les Kings ont fait quelque chose de bien, donc c'est à signaler quand même. Mais ouais, le top 3, je suis complètement d'accord avec le top 3 pour l'instant de la course.
Est-ce que c'est vraiment les Kings ou c'est les équipes avant qui l'ont laissé filer? Je pense que c'est
un petit peu
ça aussi, mais du coup ils ont fait
le bon choix. Pour une fois, les féliciter quand même. Attends,
il faut bien.
On peut aussi tirer un petit coup de chapeau à Théo Malédon en termes de rookie, qui a fait ses deux premiers matchs comme titulaire avec le Thunder pour pallier l'absence de George Hill. Et puis il a notamment bien géré sa fin de match contre les Suns avec un gros tir à 3 points, une belle pénétration au-dessus d'Ayton. Un bon coup pour le rookie là, qui fait plaisir sur ce début de saison, Théo Malédon. Et puis pour terminer les news, un petit mot sur une franchise qui galère complet, les Washington Wizards, qui ont eu plein de matchs reportés, des défaites qui s'enchaînent, Bradley Beal au bout du rouleau malgré des perfs assez fous. C'est dur en ce moment à Washington, Mathieu.
c'est très dur en ce moment et c'est vrai qu'on attend mieux d'eux et notamment de Russell Westbrook. C'est vrai que chaque saison, on attend moins des merveilles de lui dans chaque franchise où il est passé et ça marche pas. Donc je sais pas si c'est lui le problème ou si c'est les joueurs qu'il a autour de lui. C'est un avis là-dessus, les gars.
C'est un tout, je pense. Après, c'est vrai que Westbrook, chaque saison, en fait, c'est la même chose, entre guillemets. Et on voit Bradley Beal, l'image où il est complètement dépité, alors qu'il enchaîne des performances gigantesques. Et d'autant plus qu'il y a les rumeurs de trade qui s'intensifient. Washington, ça sent très, très, très mauvais, quand même.
Ouais, on les avait mis autour de des playoffs à l'Est, mais finalement, on voit qu'ils vont plutôt finir dans les top lottery picks. Allez, on va tout de suite passer au grand débat après avoir fait le tour de l'actu. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Oui, donc le grand débat sur les Brooklyn Nets avec l'équipe qui fait peut-être bien le plus parler d'elle depuis ce début de saison. James Harden est arrivé, le Big Three qu'il forme sur le papier avec Kyrie Irving et Kevin Durant fait rêver. Les résultats sont pour l'instant un peu mitigés. La défense notamment laisse à désirer. Alors 4 ans de cette équipe, que doit-elle viser le tritourien ? Thomas, on va faire un grand débat entre toi et moi. Toi, tu ne les vois pas aller au bout, tu penses que ça va pas trop marcher ?
Ça va pas marcher, pourquoi ? Parce que déjà, moi, James Harden, en playoff, j'ai un peu regardé ses stats. Et ces dernières années, il y a connu quelques péripéties, on va dire. Donc, il y a 4 matchs où il a, dans des matchs décisifs en playoff, il a 2 sur 11 quand même au shoot. Contre les Lakers, le Game 4 en 2020, le Game 6 contre les Spurs en 2017 et contre les Warriors en 2015. Donc c'était quelque chose d'assez important quand même, une grosse maladresse. Et quand on dit généralement, quand on gagne un titre NBA, c'est avec une grosse défense. Et là, en ce moment, les Brooklyn Nets, c'est la 3e plus mauvaise défense de la conférence Est, avec 115 points encaissés de moyenne, ce qui est très important quand même, même si on sait très bien qu'on attaque, ça va briller, il n'y aura pas de soucis, KD, même je pense qu'il va gérer les moments, on va dire, difficiles. Mais Steve Nash aussi, c'est un aspect à ne pas oublier, c'est un coach rookie, donc il va découvrir ses premiers playoffs, etc. Donc je pense en conférence Est, peut-être à part Philly qui montre des belles choses, si Brooklyn se retrouve face par exemple aux Clippers ou aux Lakers, offensivement pas de soucis, les Brooklyn Nets peuvent rivaliser, mais défensivement est-ce qu'ils ont une meilleure défense que les Clippers, que les Lakers? Moi je veux bien, et puis après à long terme ça va pas avoir des répercussions, tu peux être tout ton projet que t'as fait depuis longtemps, après c'est vrai que l'ambition est à très court terme hein. Mais d'autant plus qu'ils savent, je pense que Sean Marks sait que la défense est un point important à améliorer parce qu'il y a des rumeurs pour Drummond, etc. Donc, si, ils peuvent le faire, mais j'y crois pas du tout parce que défensivement, pour moi, c'est beaucoup trop léger.
Bien, merci pour ton avis, Thomas. Moi, au contraire, je pense que les Brooklyn Nets peuvent aller loin, très loin, au minimum les finales NBA. Alors, je vous ai pris des petites stats un peu depuis l'arrivée de James Harden. Pour l'instant, Brooklyn est 4e avec 12 victoires et 8 défaites. Mais depuis l'arrivée de James Harden, c'est quand même 5 victoires et seulement 2 défaites. Les 2 fameuses défaites à Cleveland, où ils étaient tombés sur notamment le premier match, un Colin Sexton complètement on fire. Et il y a seulement 2 matchs en dessous de 120 points depuis que James Harden est arrivé. Donc ça montre que l'attaque est complètement en feu. Quand tu arrives à regrouper dans la même équipe le meilleur attaquant all-time, peut-être. Il y a le débat avec Jordan, avec Kevin Durant, qui cette saison tourne quand même à 30 points de moyenne, 52% au shoot, sa meilleure moyenne avec 44% à 3 points.
Ouais, non, mais...
T'ajoutes à ça le meilleur scoreur de ces 5 dernières années, James Harden, qui est aussi l'un des meilleurs passeurs de toute la ligue. Et puis Kyrie Irving, qui, quand il veut, peut vraiment être le meilleur meneur sur le terrain. Alors oui, en défense, je suis d'accord avec toi, il y a quelques difficultés. T'as quand même de quoi faire. T'as Kevin Durant, DeAndre Jordan, t'as des mecs qui peuvent défendre. Joe Harris ou TLC qui peuvent bien défendre sur les extérieurs. Alors ouais, c'est vrai que ça manque peut-être d'un... Il faudrait peut-être recruter un petit intérieur free agent qui défend le steak. Mais je pense que t'as quand même moyen de faire quelque chose. Et puis avec une attaque pareille, en fait, t'as même pas besoin d'avoir une top défense pour pouvoir espérer aller loin. Il suffit que t'aies une défense moyenne et puis une attaque au top et tu vas gagner les matchs.
Non mais le problème, si tu joues les Lakers, si t'as, comme tu dis, une défense moyenne, entre guillemets. Sauf que les Lakers, c'est pas attaque moyenne et défense moyenne, c'est attaque top et défense top. Donc, même tu te dis, ok, il faut recruter un intérieur. Pour l'instant, Brooklyn, qui peut défendre sur Anthony Davis? Moi, je veux bien. Hein, c'est ok, c'est beau, c'est claquant, c'est du neuf. Et en plus, Steve Nash, en coach adjoint, il a Mike D'Antoni. On ne peut pas dire que Mike D'Antoni, c'est un expert en défense, bien sûr, même s'il y a d'autres adjoints qui s'en occupent pour cet aspect défensif. Mais pour moi, défensivement, c'est beaucoup trop léger. Et le problème, c'est que j'ai peur que si ça ne fonctionne pas, ça peut avoir des grosses répercussions pour l'avenir pour Brooklyn Nets, qui a mis du temps vraiment à reconstruire un projet entre guillemets sexy. Et que s'ils n'arrivaient pas à remporter le titre qu'ils souhaitent, Et bah, le projet qu'ils ont depuis une dizaine d'années peut s'effondrer en un claquement de doigts, quoi.
Le projet d'une dizaine d'années, c'est plutôt un projet depuis 3 ans avec Kevin Durant.
Oui, mais c'est... oui, mais pour faire venir Durant, etc., il y avait faire le ménage avant, etc. Donc c'est une dizaine d'années, grosso modo. C'est vrai que Durant est arrivé depuis quelques années, mais.
Depuis 2 ans, ouais.
Il fallait l'attirer. Donc il fallait l'attirer, il fallait avoir un projet, une construction. Donc c'est un. C'est un long processus quand même, et j'ai peur que bah, ça fonctionne pas. Après, franchement, moi, pour les fans de Nets, je souhaite que je me trompe, hein, mais je pense pas me tromper.
Bah, je pense que t'es un peu dur au niveau de la défense. Je pense qu'ils finalement, ils vont peut-être pas trop avoir besoin tant que ça de la défense pour pouvoir aller loin, puisque leur attaque est tellement forte. Notamment, je pense qu'au deuxième quart-temps, si Steve Nash il gère bien ses rotations, normalement, tu dois toujours avoir un des trois, Durant, Irving ou Harden sur le terrain. Là, tu vas faire chier du monde. Pendant le deuxième quart-temps, c'est James Harden qui jouait tout le deuxième quart, avec autour de lui des Bruce Brown, des Jeff Green, des Landry Shamet, Timothy Luwawu-Cabarrot. James Harden ballon en main avec que des shooters autour. Je peux te dire qu'il y a de nombreuses équipes qui vont se casser les dents sur ce deuxième quart. Des Nets qui vont créer, un écart décisif pour le match dans ce deuxième quart-temps.
Bah, j'espère qu'Harden sera plus en réussite qu'il a été ces dernières années avec Houston. Quand je t'ai dit, il est le 2 sur 11. S'il est en 2 sur 11 pendant qu'il a toute la clique, ça va faire mal, hein.
Ouais, mais James Harden, pendant ce deuxième quart-temps, peut se transformer, enfin, même pas se transformer, être plus dans un rôle de passeur ou à la création pour les autres, avec des mecs autour qui tournent autour de la ligne à 3 points, qui se mettent derrière des écrans, qui des shooters, et puis James Harden, soit en pénétration, soit à la passe, qui peut être très très dangereux et faire chier beaucoup d'équipes durant ce deuxième quart.
Oui, mais si tu mets un gros défenseur sur lui, le jeu peut être très très rapidement, on va dire, phagocyté. Et je pense que les équipes adverses pourraient en profiter largement. Donc après, tes arguments sont entendables. Hein. Je dis pas que c'est pas entendable, mais je trouve qu'ils sont pas justes. Et tout.
Le seul souci que je vois peut-être, c'est un jeu un peu stéréotypé qu'on risque d'avoir chez Brooklyn. Ouais. Va falloir que mettre en place quand même du mouvement, des systèmes en attaque pour éviter qu'on se retrouve seulement avec des isolations Kevin Durant, James Harden ou Kyrie Irving sur les possessions, notamment en fin de match, dans les possessions décisives. J'aimerais bien voir, par exemple, Kevin Durant balle en main avec James Harden qui vient poser un écran et qui ressort à 3 points derrière. Ça pourrait faire des systèmes très intéressants. Kyrie Irving qui se balade derrière des écrans. DeAndre Jordan pour faire le ménage dans la raquette. Ça peut être quand même... Il y a tout ce qu'il faut pour aller loin et puis pour aller au bout.
Mais limite, pour moi, en fait, si les Brooklyn Nets veulent réussir, limite, c'est pas Harden peut-être la clé de voûte, mais si KD et Kyrie, il est au niveau de 2016. KD, on a déjà vu, même si t'es avec les Warriors, on dit ouais, c'est l'équipe de Curry. Quand il fallait mettre les shoots décisifs, il était là quand même, KD. Oui, Harden ne peut pas gêner, mais le problème, c'est que si KD et Kyrie ne sont pas au niveau, ça cassera la gueule forcément. Harden, est-ce qu'il prendra le relais? Je n'ai pas encore vu le faire en playoff, vraiment. Tu vois, t'es le leader, si tu veux. Et... Parce qu'à Houston, à chaque fois, entre guillemets, c'est loupé. Hein, même si, bon, malheureusement, ils tombent entre les Warriors de conférence, et où ils s'embrouillent un peu avec Chris Paul, d'ailleurs, à cause de ça. Mais oui, Harden, Si on pense qu'Harden, c'est la pièce qui manquait pour gagner le titre des Nets, je pense qu'on peut se tromper parce qu'on ne l'a pas vu, en fait, Harden gagner un titre. Il n'a pas encore gagné le titre. Hein. Donc, ce n'est pas l'assurance tout risque. Après, c'est vrai que le choix se comprend. Hein. C'est vrai que c'est l'objectif, ça fait rêver en plus. Puis, tu as une hype, même si malheureusement, tu n'as pas de public. Mais imagine, voilà, si un jour, Covid nous lâche, une finale Lakers Brooklyn Nets, ça, avec du monde dans les deux salles, c'est magnifique.
Même déjà, les premiers matchs de saison régulière, Lakers-Brooklyn, je pense que ça va être à immanquable.
Oui, même les Clippers, en vrai, parce qu'on parle des Lakers, mais les Clippers sont pas négligés, d'autant plus que c'est intéressant ce qu'ils font. Mais c'est vrai que pour moi, c'est le gros point d'interrogation pour la réussite des Nets, c'est la défense, pour moi.
Bon, alors, qui vous a le plus convaincu, Nathan, Mathieu, votre avis là sur ce débat?
Moi, je serais plus d'accord avec toi, Paul. En fait, je trouve que c'est pas la franchise de James Harden, c'est la franchise de Kevin Durant maintenant. Et défensivement, Kevin Durant, quand il est en mode playoff, il y a personne qui peut le prendre.
Oui, mais après, il faut qu'il défende de l'autre côté aussi.
Non, mais d'accord. Mais
oui, mais quand tu gagnes un titre, c'est la défense, les gars, c'est pas l'attaque. Hein.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que là, ils sont pas encore en mode playoff, là, c'est encore trop tôt. Ça fait qu'ils ont joué combien de matchs ensemble? Ça
fait 7 matchs. Voilà. 7 matchs.
Et moi,
c'est
tu vois
trop
Steve
peu
Nash,
pour juger d'une défense sur le long terme. Après, on est d'accord que James Harden, c'est pas le défenseur du siècle, ça, d'accord. Mais derrière, je trouve qu'il y a du monde, comme a rappelé Paul, il y a du monde pour défendre aussi. Donc, c'est un peu trop tôt, et je pense que c'est une équipe qui va se mettre en mode playoff et qui, derrière, va pouvoir. Poser sa défense.
Moi, en vrai, j'ai des doutes en vrai avec Steve Nash. Après, j'ai pas jugé, mais défensivement, pourtant, j'ai pas vu grand chose. Le problème, c'est que s'il s'appuie sur l'expérience de Mike D'Antoni, on peut dire que Mike D'Antoni, c'est pas le mec qui a montré les belles choses en défense. Hein. Non, mais moi, je sais pas, j'ai l'intime conviction que ça marchera pas, quoi. Après, je peux me tromper, mais je sais pas. Bon, la défense, le problème, c'est un long truc, quoi.
Et pour toi, pas marché, juste, c'est arrivé où? C'est quoi? Si par exemple, ils sont éliminés en finale de conférence, ça n'aura pas marché?
Pour moi, même tu gagnes pas le titre, t'es loupé. Hein. Excuse-moi, ouais, ça, franchement, quand t'as les trois, tu t'es pas champion NBA, c'est un échec. Ça, même un si échec. Voilà.
Ils sont obligés de gagner maintenant.
Ils sont obligés de gagner.
Avec ce qu'ils ont mis sur la table, ils peuvent pas ne pas gagner.
Nathan, toi, ouais, ton avis.
C'est vrai que le trade pour James Harden, c'était un trade risqué. Ils ont quand même lâché des Jarrett Allen, qui était quand même très prometteur, Caris LeVert, Torian Prince, ça défend. C'est vrai que sur le papier, ça donne envie. Il y a de la hype. Forcément, un big three comme ça, on a envie de le voir jouer ensemble. Mais voilà, c'est peut-être un trade un peu risqué, comme tu le disais. Et ils ont lâché quand même des bons éléments défensifs. Pour gagner un titre, bah, il faut défendre. Ce que tu disais, Paul, sur les points, ils marquent beaucoup de points. L'attaque très forte et la défense moyenne, ça peut marcher. Pour moi, ça marche qu'en saison régulière. En play-off, c'est terminé, ça. On a vu le hit, j'en parlerai tout à l'heure. Ils sont en finale NBA l'année dernière parce qu'ils défendent. Ils défendent comme des malades. Et c'est simplement pour ça qu'ils sont en finale. Donc ça va me paraître assez compliqué s'ils n'osent pas leur niveau de jeu défensif pour qu'ils aillent loin en play-off. En saison régulière, ça peut marcher. Mais en play-off, j'y crois peu.
D'accord, donc des avis partagés en tout cas sur les Brooklyn Nets, c'est ce qu'on peut voir, mais ça fait parler et ça continuera de faire parler. On va être attentif à chacune de leurs sorties, notamment dans les gros matchs, que ce soit les Lakers ou même dans la conférence Est, quand il y aura des Philadelphie ou des Milwaukee contre Brooklyn. Là, ça sera des matchs à ne pas manquer, pour sûr. Et puis rendez-vous en juin pour voir si Brooklyn arrive en finale de conférence et surtout en finale NBA. Allez, et puis on va maintenant passer à la chronique N1 avec Mathieu sur Kobe Bryant. Here comes Chris Paul. The lob. The jam! Oh, what a monster jam by DeAndre Jordan! Et oui, cela fait maintenant un an que Kobe Bryant nous a quittés le 26 janvier 2020. Et aujourd'hui, Mathieu, tu as décidé de rendre hommage au Black Mamba.
Et oui, Paul, cette semaine marquait un triste anniversaire dans l'histoire de la NBA. Un an déjà que Kobe Bryant nous a quittés avec sa fille Gianna dans un accident d'hélicoptère dans le comté de Los Angeles. Le choc fut terrible pour des millions de fans. Beaucoup ont pleuré la légende des Lakers, même porté son maillot en hommage le lendemain au collège, au lycée ou au travail. Alors après un an, les fans préfèrent se rappeler maintenant des moments d'extase vécus avec le numéro 8, puis 24 de la franchise californienne. Kobe, c'est 5 titres NBA, 2 fois MVP des finales, MVP de la saison régulière en 2008 et 2 titres olympiques avec Team USA. Reste également la fameuse Mamba Mentality, cette philosophie qu'il a suivie toute sa vie. Une volonté de faire et un peu d'audace. Kobe Bryant était un bourreau de travail et une phrase résume à elle seule cette pugnacité. Je ne comprends pas quand quelqu'un dit qu'il s'entraîne puis rentre tranquillement chez lui. Si vous vous entraînez vraiment, vous devez vous sentir brisé. Alors la mentalité Mamba, c'est aussi un gros respect pour les autres champions et notamment pour LeBron James. Dans son dernier tweet avant le crash de son hélicoptère, Bryant félicitait King James pour lui avoir pris sa place sur le podium des meilleurs marqueurs all-time en NBA. Et comme un dernier hommage au Black Mamba, les LA Lakers ont remporté le dernier trophée au Bryant au terme d'une saison marquée par le Covid et la bulle d'Orlando.
Merci Mathieu pour cette belle chronique. Thomas, Nathan, j'ai envie de vous demander quel moment retenez-vous de Kobe Bryant en tant que basketteur ?
Moi, mes premiers souvenirs que j'ai de Kobe, c'est avec le Shaq en fait. Et je rappelle, c'est les premiers souvenirs que j'ai de NBA, c'est le jeu NBA Live 2003. Et ces premiers matchs que j'ai vus sur Canal+, que tu avais aussi. Donc, premier souvenir, c'est avec le Shaq. Et puis après aussi, le côté un an que ça a fait qu'il soit décédé. Je pense qu'on se rappelle tous du moment où on a appris la nouvelle en fait. Et donc, pour tout fan de NBA, c'était un moment assez... Ouais, compliqué parce que t'as l'impression que c'est pas, la vie est pas juste, etc. Donc, et quand tu te replonges après dans ses exploits, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, hein, Kobe, faut pas se leurrer.
Ouais, c'est vrai, on les pense invincibles, ces stars-là. Et c'est vrai que ça a fait un choc pour tout le monde. Moi, le premier, j'étais pas forcément un grand fan de Kobe, mais c'est vrai que c'est marquant, forcément. Mais sinon, si je devais retenir un moment, ça serait quand il se blesse au tendon d'Achille, qu'il sort, qu'il revient tirer son lancer franc. Ça décrit exactement ce que tu disais, Mathieu, la Mamba mentality, elle est là. C'est même en ayant mal, il faut tout donner pour gagner. Voilà, c'est clairement ce qui le correspond le plus.
C'est Kobe Bryant, et puis moi, de mon côté, c'est peut-être son dernier match contre le Jazz à 60 points. Voilà, 60 points pour son dernier match, c'est quand même fou, même s'il avait pris plein de tirs ce jour-là. Ça montre quand même un grand homme qui sort sur un match d'une telle manière. Allez, maintenant, après ce bel hommage, on va passer au baromètre de Nathan, où on va parler justement du dernier adversaire des Lakers en finale de conférence, le Miami Heat. Lillard, long range 3, and it's good! At the buzzer, Damian Lillard, are you kidding me? Allez Nathan, on t'écoute sur le baromètre, le Miami Heat et le Utah Jazz.
Effectivement, je vais commencer par vous parler du Utah Jazz. Le Utah Jazz, cette saison, c'est un départ moyen. 4 victoires, 4 défaites. Et depuis, ils n'ont pas perdu un seul match, 10 victoires de suite pour au final être aujourd'hui le meilleur bilan de la Ligue. Premier à l'Ouest, premier dans toute la Ligue. 14 victoires pour 4 défaites. Le Utah Jazz, c'est un effectif qui est toujours très complet, mais cette saison qui a cranté un petit peu, qui est plus performant. Rudy Gobert, Donovan Mitchell, ils ont vraiment passé la seconde, malgré les critiques du chat qu'on a vu contre Rudy Gobert et récemment contre Donovan Mitchell, mais malgré ça, bah voilà, ils sont toujours présents, les leaders du Jazz. Mike Conley est retrouvé, Jordan Clarkson est parfait dans son rôle de dynamiteur. On voit derrière des joueurs comme Joe Ingles ou Bogdanovic qui peuvent mettre 30 points à tout moment, on le sait. Puis Derek Favors, Royce O'Neal, George Niang, qui pour le moment sont parfaits dans leur rôle respectif. C'est un effectif qui a de quoi faire peur sur le papier. Ils sont polyvalents, domicile et extérieur. On sait que c'est pas très marquant cette saison en NBA vu les salles vides. En tout cas, le bilan est à 7-2 à l'extérieur, 7-2 à domicile. Donc voilà, ils sont capables de gagner aussi malgré l'absence de leur leader ou le moins bon match de leur leader. Contrairement à certaines équipes, hein, on a vu les Clippers quand Kawhi n'était pas là, ils ont pris 50 points par les Mavs. Hein, voilà, ou les Lakers ou les Nets quand LeBron ou Durant sont pas là, c'est un petit peu plus compliqué. Eux, ils arrivent à gagner pour sur leur série. Là, on a vu contre les Mavs, contre Dallas, sans Donovan Mitchell, ils ont fait un match un petit peu référence, comme le disait Rudy Gobert, et il les a jamais vus aussi concentrés. Donc c'est vrai que ça, il y a de l'espoir dans le Jazz. Petit problème du Jazz, c'est que généralement c'est une bonne saison régulière. L'année dernière, sixième à égalité avec le quatrième Houston et le cinquième OKC. Contrairement à par exemple Portland, qui fait des saisons régulières un petit peu mitigées, qui finit souvent en queue de peloton, qui fait des gros playoffs derrière souvent. Là, le problème du Jazz, c'est que derrière, ils n'arrivent pas à passer un cap en playoffs ces dernières années. Les 4 dernières années, c'est 2 sorties au second tour, 2 sorties au premier tour. C'est assez frustrant. On l'a vu hein, dans la bulle, ils menaient contre Denver 3-1, ils perdent au match 7, 4-3. Donc voilà, après Denver, on a vu que c'était une équipe qui était très solide l'année dernière. Mais bon, voilà, comme dit Steve Kerr, ils essaient de gagner un titre cette saison et je pense qu'ils en sont capables. Ils sont là où nous étions il y a 3 ou 4 ans. Une bonne grosse dose de pression et peut-être des titres et une dynastie Jazz dans les années à venir. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ?
C'est intéressant le Jazz parce que tu as quand même une équipe qui a un niveau pour jouer le haut de tableau, mais on a l'impression qu'il y a quand même un plafond. On a l'impression qu'ils ont un niveau maximum. Peut-être que là, ils ont déjà atteint. Est-ce qu'ils ne sont pas prêts trop tôt ? Même.
Alors, je suis pas trop d'accord parce qu'ils n'avaient pas jamais atteint ce niveau-là, notamment au tir à 3 points. Ils sont au-delà du nombre de points par match des Warriors en 3 points. Et donc c'est aussi pour ça que Steve Kerr faisait cette déclaration. Donc il y a vraiment, ils ont passé un cap, en tout cas dans ces 10 matchs. Après, évidemment, à voir s'ils peuvent le reproduire sur toute la saison régulière et après en play-off. Mais en tout cas, il se passe quelque chose, ça c'est sûr. Et peut-être aussi la prolongation de contrat de Gobert et Mitchell qui jouent aussi sur l'effet de d'équipe quoi. Ils sont tous ensemble maintenant et ils savent qu'ils sont là pour un long moment ensemble quoi.
De toute façon, le progrès qu'on pourrait voir chez les Utah Jazz, c'est pas forcément en saison régulière, c'est vraiment en play-off. Est-ce qu'ils vont passer ce step et réussir comme l'a fait Portland il y a 2 ans, comme l'a fait les Nuggets, c'est-à-dire aller en finale de conf? Si tu vas en finale de conf et tu perds entre les Lakers ou les Clippers, on va pas t'en vouloir, mais par contre, si tu perds en premier tour, je sais pas, contre les Mavs à tout hasard, c'est pas normal. Mais après, le point que tu disais, Nathan, il y a 2 joueurs qui sont peut-être à surveiller, entre guillemets. Il y a Bogdanovic, qui est pour l'instant pas si à l'aise que ça et pas si en réussite que ça. Et tu as Royce O'Neal, je trouve que franchement, il fait un sacré taf, un taf de long. Mais ce genre de joueur, c'est toujours utile dans une équipe qui est contender, on va dire, entre guillemets. Même si, est-ce qu'on considère Utah comme un contender? Je sais pas. Mais contre une équipe très sérieuse et qu'on espère. Voilà, au moins passer un tour en play-off et même atteindre des finales de conf. Et je trouve aussi, comme disait Mathieu, bah, Mitchell et Gobert font taire les critiques. Bon, le gros chat, en ce moment, il n'y a pas de bêtises, hein, le gros chat, mais bon, voilà.
Utah, on risque peut-être aussi de les retrouver dans les courses aux trophées individuels, notamment, je pense, Rudy Gobert, bien sûr, défenseur de l'année, Quinn Snyder en coach
de l'air,
on pourrait le retrouver. Et puis, n'oubliez pas, Jordan Clarkson, 6e homme. Moi qui l'avais mis au début dans mes pronostics.
Mais aussi, juste pour finir, Utah Jazz aussi, ils vont aussi pouvoir faire quelque chose pour les années prochaines, en fait. Puisque là, ils envoient un grand signe à toute la NBA en disant on est là maintenant. Et donc, peut-être les vétérans qui venaient à l'époque aux Lakers. Ou aux Nets maintenant, peut-être qu'ils diront tiens, on va aller au Jazz, peut-être qu'on gagnera un titre avec eux.
Ouais, après, c'est toujours difficile pour le Jazz. Le petit marché Utah, ça fait pas forcément rêver. on connaît la signature des agents libres à Utah.
Si elle a
jamais facile.
Gagner le titre, ça va peut-être les attirer, parce que ce n'était pas le cas les saisons précédentes.
S'ils arrivent à faire ce que n'ont jamais réussi à faire Karl Malone et Joe Stockton.
Ça serait quand même
ça serait une beau, ça serait beau.
Ça me paraît quand même compliqué. Hein,
ouais. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Allez, maintenant, on passe à l'équipe qui est moins en forme, le Miami Heat, Nathan.
Effectivement, qui d'autre que le Miami Heat dans l'équipe un peu en méforme, même beaucoup en méforme dans ce début de saison. Ils nous avaient donné des espoirs exceptionnels après la bulle, on l'a vu. Hein, c'est l'équipe surprise de cette année, enfin de l'année dernière plutôt maintenant. Et voilà, aujourd'hui, ils sont 13e de la Conférence Est. C'est la 27e équipe de la Ligue. Ils sont sur 5 défaites de rang. Certes, les Clippers, les Nuggets, deux fois les Nets. Mais voilà, ça va pas du tout du côté de Miami. Le mal est profond dû à un effectif changeant, l'effectif qui fluctue beaucoup avec les blessures, le Covid. Bam Adebayo est pas au niveau de ce qu'il nous a montré la saison dernière, ou en tout cas des espérances qu'on peut avoir envers ce joueur. Tyler Herro qui limite un peu la casse, mais qui reste assez irrégulier, tout comme Duncan Robinson. Hein, c'est vraiment le joueur irrégulier au possible qui élève leur niveau dans les matchs à enjeu. Pas beaucoup cette année pour le Heat de matchs à enjeu. Donc voilà, des Duncan Robinson à 29 points un match, 6 points comme il l'a fait la nuit dernière, on va le voir souvent cette saison, je pense. Jimmy Butler qui est souvent absent et moins tranchant quand il est là. Et Goran Dragic qui tire l'équipe vers le haut mais qui est très souvent absent. Voilà, c'est un effectif qui est toujours complet, assez polyvalent, mais qui est pas performant cette saison, contrairement au Jazz, on l'a vu. Et c'est ce qui avait amené Miami en finale 2020. Et là, ça leur fait un petit peu défaut d'avoir des joueurs un petit peu homogènes. Dans nos pronostics, pas une seule fois en dehors du top 5, quand on les voyait tous dans le top 5 à l'Est, Miami. Bon, je crois que là, il y a un petit problème quelque part.
Bref, pour remonter le Heat, là, va falloir s'accrocher et enchaîner des séries de matchs. Mais on peut aussi expliquer ça peut-être par une fatigue, puisque c'est quand même la dernière équipe avec les Lakers à avoir joué jusqu'à mi-octobre. Ils ont repris à peine plus de 2 mois après leur dernier match, pardon. Donc voilà, est-ce que vous voyez le Heat remonter, Mathieu et Thomas?
Je pense au moins en play-in quand même, un minimum. Hein. Franchement, il y a Charlotte qui est devant eux, ouais, encore, je crois, il me semble. Il y a Charlotte qui est devant eux.
Les Cavs.
Les Cavs, les Knicks,
les Cavs, Charlotte.
Retenez cette phrase, les Knicks sont devant le Heat pour l'instant. Incroyable.
C'est vrai que qui
franchement, incroyable. C'est vrai qu'ils ont été vachement minés par le Covid, les blessures, etc. Et ils n'ont pas su survivre, entre guillemets, sur cette vague. Et tu parlais du facteur physique. Ouais, pourquoi pas. Après, quand tu vois LeBron d'un côté qui disait qu'il était fatigué et ce qu'il fait, j'ai du mal à l'entendre.
Mais LeBron, il a gagné.
On parle de LeBron.
Oui, mais
ils ont gagné. Je pense que le principal souci, c'est se remettre de la défaite et repartir dans une nouvelle saison.
Déjà, c'était entre guillemets une victoire parce que ils perdent contre les Lakers en finale. En soi, c'est pas.
Ouais, mais c'est pas la mentalité de Butler de se dire c'est bon, j'ai perdu, c'est pas grave.
Ah, mais on le voyait en finale, là, dans le match 6, il me semble, quand ils perdent, ou le match 5, il était épuisé. On le voit sur les panneaux publicitaires, complètement rincé. C'est vrai que je pense qu'ils ont eu du mal à s'y remettre. C'est pour ça qu'ils se blessent aussi souvent, cet effectif des deux hits, du Heat.
Donc à voir si le Heat va remonter, donc au moins dans le play-in, au-dessus de la 10e place. On va les suivre attentivement aussi pour la suite de la saison. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce 3e épisode de Clutch Time. Merci Mathieu, merci Thomas, merci Nathan.
Merci Paul.
Merci à toi.
Paul. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Instagram et puis pour découvrir notamment les portraits de l'équipe du CNJ dans les prochains jours. Et puis on se retrouve pour l'épisode 4 d'ici à quelques jours.